Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Autrice de 11 romans, dont L'insouciance et l'invention de nos vies, elle vient de publier le dernier, Les choses humaines, en cette rentrée littéraire 2019. Comme ses livres précédents, celui-ci est travaillé par la question de l'identité, mais il se penche surtout sur la culture du viol et la question du consentement. La romancière Karine Thuil nous reçoit dans sa bibliothèque et conseille 3 livres. La supplication, de la prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch aux éditions Lattès, Une partie rouge, de l'américaine Maggie Nelson, dont la traductrice Céline Leroy nous conseillait récemment Les Bleuets aux éditions du Sous-Sol, et L'écriture comme un couteau, de la romancière française Annie Ernaux, chez Stock. Dans ce dernier livre, Annie Ernaux donne une définition de l'écriture. Elle dit « Si j'avais une définition de ce qu'est l'écriture, ce serait celle-ci. Découvrir en écrivant ce qu'il est impossible de découvrir par tout autre moyen, parole, voyage, spectacle, ni la réflexion seule. Découvrir quelque chose qui n'est pas là avant l'écriture. C'est là la jouissance et l'effroi de l'écriture. Ne pas savoir ce qu'elle fait arriver, advenir. Vous écoutez le Book Club, le podcast de Louis Média qui vous aide à renouveler votre bibliothèque. C'est Clémentine Golzal qui est entrée dans celle de Karine Thuil.
Nous sommes dans votre appartement qui est complètement rempli de livres, de l'entrée au salon. On ne sait pas si c'est l'appartement qui contient la bibliothèque ou la bibliothèque qui contient l'appartement.
En fait, ça me rassure. La présence des livres autour de moi me rassure. Donc il faut qu'il y en ait par terre, sur les tables, de savoir que je peux en prendre un. C'est une présence rassurante. Donc là, dans votre entrée, alors oui, il y a donc des photos au mur, mais alors des livres par terre en pile, des livres contre le mur, mais dans une bibliothèque qui permet de les maintenir allongés, et dos à moi aussi, toute une bibliothèque avec des livres un petit peu plus anciens. Je vous laisse commencer par où vous voulez.
Alors en fait, il n'y a pas d'ordre, c'est-à-dire qu'il y a la fois, là, il y a pas mal de livres de la rentrée littéraire, dont certains que j'ai lus, il faut que je leur trouve une place.
Ça, c'est ceux qui sont par terre un petit peu en désordre.
Voilà.
Et donc ceux-ci, vous savez les localiser, vous savez que quand ils sont nulle part ailleurs, ils sont là?
Ah non, pas du tout, ça c'est bien, je ne sais absolument pas où sont mes livres, donc très souvent je les rachète, donc je les ai en double exemplaire parce que je ne sais absolument pas où ils sont, donc je les cherche et j'ai beau les chercher, je ne les retrouve jamais.
D'accord. Alors là, on passe au salon, où il y a une grande bibliothèque qui va jusqu'au plafond, et effectivement là, elle est pleine à craquer. Hein.
Oui, mais elle est beaucoup mieux rangée, là je m'y retrouve plus. Alors, il y a beaucoup de livres sur la pensée juive ou sur des questions liées à l'identité juive, à l'antisémitisme. Par exemple, voilà, j'ai tous les livres de Benny Lévy, que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de livres de Lévinas, que j'aime beaucoup aussi. Il y a Martin Buber, que je cite dans Les choses humaines. Il y a des textes qui ont été écrits par mon mari, Ariel Toledano. Donc il y a quand même une grande partie de la bibliothèque est consacrée à des réflexions sur l'identité, qui est d'ailleurs un thème qui revient très souvent dans mes livres.
Vous les consultez de quelle manière? Vous les regardez? Vous les sortez? Vous les lisez pour vos recherches ou pour vous-même un petit peu tout le temps ou jamais?
Alors en fait, c'est très souvent, il m'arrive de prendre un livre et de lire certains passages. Par exemple, récemment, j'ai repris une conversation entre Sartre et Béni Lévy. C'est un texte très intéressant qui s'appelle « L'espoir maintenant », voilà, des entretiens de 1980 chez Verdier. Et j'ai relu cet entretien très récemment. Voilà, après, je remets dans la bibliothèque. J'ai beaucoup aimé cette collection qui n'existe plus. Qui suis-je? Voilà, Raymond Aron. C'est des entretiens avec des penseurs. Et j'en ai quelques-uns, mais voilà, ils sont très mélangés. Et donc, ça m'arrive fréquemment, oui, de prendre un livre et de lire seulement certains passages.
Est-ce que c'est l'actualité qui vous y ramène? C'est des considérations personnelles, des ruminations personnelles sur des sujets précis?
C'est souvent des considérations personnelles. Par exemple, j'ai perdu mon père il y a 3 ans et j'ai cherché des textes sur le deuil. Et j'avais lu notamment un texte de Hélène Cixous, j'avais lu un texte de Barthes, j'avais lu un texte
Journal de deuil. Dion,
voilà. Et ça m'avait énormément aidée. J'avais relu Albertine disparue dans Proust. Donc c'est vrai que pour moi, la littérature, ça nous aide à vivre en fait. Nous aide à affronter certaines épreuves de la vie, à appréhender l'existence. Donc quand j'ai des préoccupations particulières, je m'en réfère au livre. Là, c'est un peu mélangé, mais c'est en général dans cette bibliothèque des textes qui comptent beaucoup pour moi. C'est très étrange parce que Frantz Fanon, dans ma bibliothèque, côtoie Romain Gary et tout est mélangé. Alors, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'une fois, je m'étais rendu compte dans ma bibliothèque que, sans faire exprès, j'avais mis Céline à côté d'un auteur juif. Et je m'étais dit... est-ce que c'est pas contre nature, finalement, de mettre Céline, je sais plus quelle auteur c'était, et j'en avais même fait un papier, et puis je les ai séparés.
Mais parce cohabitation
que j'ai lu,
forcée.
Voilà, j'ai lu aussi Céline, et il doit être quelque part, voilà, il y a Voyage au bout de la nuit, il y a sa thèse, Summer Weiss, qui côtoie Roger Stéphane. Ben voilà, donc...
Et donc, quand vous en achetez un nouveau, vous poussez les autres et vous le mettez un petit peu là où il y a de la place.
Exactement. Donc, parfois, ça s'entasse. Et parfois aussi, je suis obligée de me séparer de certains textes. Mais ceux qui sont là sont en général des textes que j'aime.
Qu'est-ce qui part en premier quand il faut faire du vide?
Alors, j'achète souvent des témoignages. Par exemple, quand je travaille sur un sujet, j'aime bien me renseigner sur ce sujet. Donc, une fois que le livre est écrit, certains textes qui ont été pour moi de la documentation, je m'en sépare. Voilà. Et je suis en train de penser, parce que maintenant qu'on visite les bibliothèques, j'aimerais vous montrer la bibliothèque des livres pour enfants. En fait, parce que j'ai 3 enfants, dont certains sont grands, mais j'ai gardé tous les livres d'enfants. Parce que je crois beaucoup aux valeurs de la transmission en littérature. Et donc, très tôt, j'ai acheté des livres pour mes enfants. Et je les ai gardés parce que je voulais qu'ils soient présents dans la maison et que plus tard, ils restent parce que tout se joue très tôt, en fait. Le rapport au livre et aux grandes thématiques se joue dès le plus jeune âge.
Bah oui, allons voir alors. Ah oui, donc là, ils sont dans un placard.
Voilà, alors il y a aussi, je vois qu'il y a Maus d'Art Spiegelman qui est dans la bibliothèque des enfants, mais c'est quand même bizarre. Et voilà, il y a beaucoup de livres.
Ah oui, des centaines, je dirais.
Voilà, et il y a aussi, quelque part, la mythologie grecque, voilà, les mythes grecs. Voilà, j'aime beaucoup acheter des livres aux enfants, même si maintenant ils sont très grands, mais...
Pour tous les âges, quoi, parce que ça va de Tchoupi à la Bibliothèque Verte, à des livres genre jeunes lecteurs.
Voilà, il y a absolument de tout.
Et vos enfants lisent? Ils n'ont pas été braqués par votre avidité à les faire lire?
Alors, ils lisent beaucoup, et ça, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Et aujourd'hui, mon fils aîné, bah, justement récemment, qui a 23 ans, m'a demandé de lui faire la liste de mes livres préférés. Et donc, il est en train de les lire, donc on a des échanges en plus après. Et c'est intéressant de voir ce qu'il en pense. Et j'ai ma fille aussi qui...
Qu'est-ce qu'il y avait sur la liste, si ce n'est pas indiscret?
Y avait ceux qu'on a vus tout à l'heure. Il y avait le journal de Gombrowicz, il y avait le journal de Kafka, il y avait Vassili Grossman, Vie et Destin. C'est pour moi des monuments, voilà, que je lui ai donné à lire.
va dans la vie avec tout ça, mon garçon. C'est pas.
Oui, mais c'est... Il me demandait des livres importants et pour moi, ça, c'est des livres qui vous transforment, en fait. C'est vraiment des livres qui vous transforment profondément parce que, en fait, les livres que j'aime et donc que je leur conseille, ce sont souvent des livres qui, finalement, nous interpellent sur la condition humaine. Et j'ai ma fille aussi qui lit beaucoup. Je sais qu'elle aime beaucoup Duras, par exemple, qu'elle aime beaucoup Bourdieu. Et on en discute et ils lisent aussi mes livres. Mais on lit beaucoup. Enfin, mon mari lit beaucoup aussi. Donc,
Alors
après, je vous fais rentrer dans ma chambre.
Ouais.
Il y a beaucoup, beaucoup.
Ah là là, alors, à la question traditionnelle, quel livre est sur votre table de nuit? Ça prendrait quelques pages.
C'est mon mari et voilà. Et Jacques Derrida, La vie, la mort, c'est tout un programme. Vous imaginez mon réveil.
Voilà. J'aime bien les soirées lecture. D'accord. Donc, ça, c'était votre mari qui lit La vie, la mort de Jacques Derrida. À vous, c'est un petit peu plus raisonnable. Il n'y a que deux hautes piles.
Voilà. C'est vraiment des livres qui sont importants pour moi. Voilà. Il y a L'espèce humaine de Robert Antelme, James Baldwin, Chronique d'un pays natal. Et alors là, ça, c'est en partie les livres que j'ai lus pour écrire mon roman. Donc, par exemple, il y a Viol, le procès d'Aix-en-Provence avec la plaidoirie de Gisèle Halimi. Il y a un livre sur les agressions sexuelles. Il y a des textes d'avocats. Il y a des écrits féministes. Il y a la revue Feuilleton, que j'aime beaucoup, sur la littérature du réel.
Et donc, ces livres-là qui sont dans une pile un peu miraculeuse qui tient par la force d'une petite structure en métal, est-ce qu'ils ont vocation à bouger et à être réintégrés à la bibliothèque principale ?
Oui, après, ceux-là, je vais les enlever. Mais là aussi, c'est un mélange. Par exemple, voilà, il y a Georges Bataille, La littérature et le mal, à côté de la culture du viol et Éric Dupond-Moretti. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu de tout. Il faut que je range, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire.
Est-ce que les ranger, ça voudra dire aussi de tourner la page des choses humaines, votre dernier roman ?
Oui. Je vais bientôt les ranger, d'ailleurs. Ah. Mais voyez, il y a tout. Il y a Parti pris des choses de Francis Ponge, Austerlitz de Sebald. C'est un peu mélangé, là, encore. On voit bien que je ne suis pas du tout quelqu'un d'organisé.
D'accord. Et voilà. Et nous voilà de retour dans le salon. Alors, je vous propose qu'on s'installe pour que vous nous parliez des trois livres que vous avez choisis. Ah oui, alors je voudrais juste dire que vous avez choisi trois livres aujourd'hui qui, tous les trois, questionnent très fortement le lien entre fiction et littérature. Ah oui. Qui sont trois livres de trois femmes de trois nationalités différentes. Il y a une Française, Annie Ernaux, une Biélorusse, Svetlana Alexievitch, et une Américaine, Maggie Nelson. Et ces trois livres qui, à mon sens, sont quand même unis par une ambition littéraire immense, humaniste et indéniable.
Oui, alors ça a été très difficile de choisir ces trois livres, parce que je me suis dit, il y a tellement de livres que j'aime, comment je vais choisir ? Et en fait, finalement, ils se sont imposés. D'abord parce que, je les cite, Annie Ernaux, par exemple, L'écriture comme un couteau, c'est un texte que je relis très souvent. C'est une réflexion sur l'écriture, sur la place de l'écrivain, sur la réception critique des livres... et ça, c'est un texte. D'ailleurs, il est abîmé. Je le lis, je le relis. J'ai certaines phrases que j'ai conservées.
Vous avez l'édition folio d'un texte qui est apparu en 2003 aux éditions Stock et qui sont en fait des entretiens de l'écrivaine Annie Ernaux avec un écrivain qui s'appelle Frédéric Yves Janet. Et Annie Ernaux s'y confie, comme elle le fait rarement, et a accepté d'explorer son œuvre et son travail, ce qui la traverse elle en tant que femme, ce qui traverse ses livres, ce qui les agite, ce qui les détermine, ce qui les fait exister. C'est un livre très beau qui est vraiment... je trouve, sur le métier d'écrire, mais aussi sur les livres d'Annie Ernaux qui permettent de comprendre ce qu'Annie Ernaux essaye de faire et réussit, à mon avis, souvent à faire dans ses livres. Annie Ernaux, c'est l'écrivaine des années, de l'événement, de Passion simple, de la place. Elle vient d'un milieu populaire. Elle est née en 1940 en Normandie. Ses parents étaient commerçants. Elle est devenue professeure, puis écrivaine. Et elle a passé toute son œuvre, peut-être, à questionner les notions de classe, de transfuge de classe et la condition féminine en regard aussi avec ces questions de classe sociale. C'est une œuvre que je ne m'étonne pas du tout de retrouver dans votre choix, parce que vos romans sont également très concernés par ces problématiques de classe et de transfuge de classe. Annie Ernaux, dans ce livre d'entretien, dit à un moment qu'elle avait pour ambition, quand elle a commencé à écrire, d'écrire quelque chose entre la littérature, la sociologie et l'histoire. Et je crois qu'on pourrait dire à peu près la même chose de votre travail, même si ça prend votre travail à vous prend un tour beaucoup plus résolument fictionnel.
Je me retrouve beaucoup dans son travail parce que son travail est empreint d'une grande réflexion sociale. Et notamment, il y a un texte qu'elle a écrit d'ailleurs qui s'appelle « La place ». Et moi, j'ai l'impression que tous mes livres abordent la question de la place sociale. Effectivement, alors elle a beaucoup travaillé sur les rapports de classe, les dominants, les dominés, quand on utilise la langue des dominants, quand on devient écrivain. Et c'est des questions, je pense qu'on ne devient pas écrivain par hasard, on devient écrivain parce que c'est un moyen de trouver sa place. Donc à la fois faire le choix de la solitude, donc on est très seul, donc on n'a pas de place au sein de la collectivité, et en même temps, en écrivant, on circonscrit un territoire et on trouve sa place. Et donc, ce sont des textes qui m'ont beaucoup touchée. Et c'est vrai que dans ce livre-là, en plus, elle aborde la question de l'écriture et de la littérature avec une franchise incroyable. C'est-à-dire qu'elle n'élude absolument aucun problème, y compris la réception parfois critique de ses œuvres à ses débuts. Et c'est très, très fort parce que il y a une puissance d'évocation chez elle. Il y a une forme de violence aussi. Moi, je me souviens d'une interview qu'elle avait donnée il y a quelques années à l'Obs. Et elle avait dit « Quand je rends mon texte à mon éditeur, il faut que j'aie honte. » Et j'ai adoré cette phrase parce que il y a un peu de cela quand on écrit. Moi, c'est différent. C'est l'idée de déranger. Parce que j'ai été élevée dans une famille où on me disait « Il ne faut pas déranger ». On ne doit pas déranger, on doit être le plus discret possible. Et récemment, un journaliste me faisait remarquer que je cherchais en littérature à déranger. Et au fond, peut-être qu'Annie Ernaux aussi, avec ses livres, cherche cela, à la fois à trouver sa place et à susciter des questionnements et des réflexions qui la traversent.
Vous croyez qu'on écrit toujours contre son milieu, ses parents, l'endroit d'où l'on vient ?
Oui, je suis convaincue que dans l'acte d'écriture, il y a une forme d'opposition et d'adversité. J'en suis vraiment certaine, il y a une sorte de lutte. Il y a évidemment un élément, alors ça peut être un élément de votre vie intime ou dans la société, qui vous interpelle au point de ressentir un besoin quasi viscéral de le comprendre en l'écrivant.
Elle a, vous l'avez dit, dans ce livre, elle évoque un petit peu la réception de ses livres qui a été au début un petit peu rude. Et maintenant, Annie Ernaux est reconnue ces dernières années comme une écrivaine majeure. Tout le monde l'aime. Et je me demandais si vous aviez, au vu de votre bibliothèque, je ne pense pas, mais est-ce que de temps en temps, vous avez une réticence à aimer les écrivains que tout le monde aime ? Est-ce que vous aimeriez pouvoir en trouver qui ne soit qu'à vous ?
Alors, moi, je n'ai aucune réticence. En fait, quand je lis, je n'ai aucun a priori. Je découvre un livre avec un regard neuf. Je ne me fie pas du tout à ce qu'en disent les critiques. Et puis, un livre peut me toucher et ne pas toucher une autre personne. Par exemple, je me souviens très bien, là, récemment, quand j'ai lu « Me voici » de Safran Foer, pour moi, ça a été... D'abord, j'aime beaucoup cet auteur et pour moi, j'avais l'impression de lire un très grand livre. Et je l'ai conseillé et autour de moi, j'ai eu quelques amis qui m'ont dit « Écoute, moi, au bout de 100 pages, c'était pas mon univers, j'ai pas... Voilà. » Alors que pour moi, c'était vraiment une très grande lecture. J'avais même envie de le lire une deuxième fois. Après, il y a d'autres textes qui font, entre guillemets, l'unanimité. Je pense, par exemple, au Lambeau de Philippe Lançon, que j'ai adoré. J'en ai beaucoup parlé autour de moi et tout le monde l'avait aimé. Et ça ne me pose aucun problème de considérer que c'est un très grand texte. Il m'arrive aussi d'aimer parfois des livres que d'autres aiment moins. Et encore une fois, il y a quand même aussi, c'est ce qui est formidable en littérature, moi, je suis contre l'idée d'un bon goût. En fait, il y a des affinités. Par exemple, moi, parfois, on me dit... parce que c'est vrai que j'aime beaucoup Philippe Roth. On me dit, j'essaye de m'inspirer de Philippe Roth. C'est absolument absurde de dire ça, par exemple, parce que moi, je considère que quand on aime un auteur, c'est parce qu'il fait aussi écho à notre propre intimité. il est évident qu'il est celui qui a écrit sur l'identité juive, sur les conflits liés à cette identité. Et quand je l'ai lu, il y a quelques années, j'avais vraiment l'impression de retrouver des choses très intimes que je n'avais jamais eu le courage de dire ou d'écrire. Il y a presque une fraternité quand on lit certains textes. Ça vous touche à un moment donné de votre vie. On en parlait du deuil, c'est la même chose. Quand j'ai lu Hélène Cixous, les passages sur la maladie de sa mère, ça m'a énormément touchée pour beaucoup de raisons. Donc on ne cherche pas à s'inspirer des autres, on se nourrit d'eux, et effectivement, mais surtout, leurs livres, leur œuvre, trouvent ou non un écho en nous parce qu'il y a des affinités très, très profondes.
Avec Annie Arnaud, vous vous sentez ce genre d'affinité ?
Oui, tout à fait, notamment sur la question de la place sociale, parce que ça a été une question qui a été très importante pour moi, qui l'est toujours, c'est-à-dire comment on trouve sa place quand on ne vient pas des élites, quand on est une femme, quand on évolue dans une société très compétitive, comment on trouve sa place aussi en tant qu'écrivain. Donc tout ce qu'elle décrit des rapports de classe, et bon, c'est une très grande lectrice de Bourdieu qui aussi pour moi a été important. Vous citiez Ribon aussi, dont j'aime beaucoup le travail. C'est des préoccupations qui sont encore les miennes, et donc, évidemment, ça me touche.
D'accord, je vous propose qu'on passe au second livre dont vous avez voulu nous parler, qui a reçu la meilleure réception critique dont on puisse rêver, c'est-à-dire que c'est un livre de Svetlana Alexievitch, qui est prix Nobel de littérature. Donc c'est un peu je pense que c'est le Graal. Pour une écrivaine, c'est un livre qui s'appelle... La Supplication, qui est sous-titré Tchernobyl, chronique du monde d'après, qui a été traduit du russe par Galia Ackerman et Pierre Lorrain, et qui est apparu aux éditions Lattès en 1998. Et vous avez l'édition J'ai lu, qui est plus récente, parce que le livre a été republié en 2015, quand Alexievitch a reçu le prix Nobel de littérature. Donc Svetlana Alexievitch, c'est une écrivaine et journaliste biélorusse, qui a écrit notamment La fin de l'homme rouge, Cercueil de zinc, La guerre n'a pas un visage de femme. Dans ce livre, La Supplication, elle revient sur la catastrophe de Tchernobyl, qui a eu lieu en avril 1986, en donnant la parole aux victimes. Et c'est un livre qui a une forme hybride, fragmentaire, qui comporte des citations, qui navigue un petit peu entre les genres. Il y a même, très rapidement dans le livre, une auto-interview de Alexievitch, où elle se demande à elle-même quelles sont les motivations pour écrire ce livre. Quand elle a reçu le prix Nobel, il y a eu pas mal de débats autour de la valeur, ouvrez les guillemets, littéraire, de son œuvre ou pas, parce qu'elle fait un travail de consignation, qu'elle va à la rencontre des gens et qu'elle consigne leurs paroles, qu'elle met ensuite dans des livres. Je crois que sous des apparences de simple enregistrement, c'est un travail qui est en fait éminemment littéraire, parce qu'il ne s'agit pas d'enregistrer et de recopier, que évidemment les livres sont construits, que s'il n'y a pas un travail de réécriture à proprement parler, je pense que tout ce qui est fait pour faire du témoignage un livre, pour moi, provient de la littérature. Donc c'est un travail sur la forme qui est absolument passionnant et qui, je pense, a dû être très inspirant pour vous, notamment pour votre dernier livre où il y a de longs passages, de plaidoiries. Vous avez une littérature qui donne une impression de réel très forte et j'ai l'impression que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez beaucoup. Et Svetlana Alexievitch part du réel pour faire de la non-fiction, et vous partez du réel pour faire de la fiction. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez découvert son travail ?
J'ai découvert son travail avec ce livre, et je ne sais plus comment. Je me souviens d'un très très grand choc. D'abord parce que finalement, la catastrophe de Tchernobyl, j'en connaissais, je l'avais appris à l'école, enfin, comme tout le monde... Mais j'avais pas lu de texte là-dessus. Et après, d'ailleurs, j'en ai lu beaucoup d'autres après avoir lu ce livre. Et puis, pour moi, en fait, c'est un livre sur la condition humaine, en fait, sur l'épreuve, sur le mal et la survenue du mal dans la vie. Et au fond, c'est un sujet qui n'a cessé de me hanter, parce que par la suite, mes livres abordent quand même beaucoup la question de l'irruption du drame dans une vie. Et elle le montre très bien. Et... ce livre est, pour moi, c'est un livre qui vous ébranle durablement. D'abord, la lecture, parce qu'on découvre cette catastrophe. Ensuite, les témoignages. D'abord, je suis d'accord avec vous, c'est pas juste un travail de restitution. On voit bien qu'elle a gardé le cœur à chaque fois des histoires, des témoignages, ce qui rend le récit extrêmement vif et puissant. Et en fait, en lisant, on a l'impression d'être à vif. On a l'impression qu'avec ce livre, elle touche à l'âme humaine, elle touche à ce qu'il y a de plus profondément humain en nous et profondément le point de fracture, en fait. Et quand vous traversez votre quotidien, vous êtes parfois affecté par des petites choses de la vie quotidienne, une contrariété professionnelle, et puis vous lisez la supplication d'Alexievitch. C'est un tel choc, en fait, ce livre. Elle raconte une telle souffrance. D'ailleurs, elle le dit, ils disent « Je pensais même pas que ça existait, en fait, que ça pouvait exister d'autant souffrir, de voir des êtres qu'on aimait autant souffrir. » Et pourtant, moi, j'avais lu beaucoup de textes sur la Shoah, étant adolescente, donc j'avais lu des textes sur la barbarie, sur la souffrance, sur le mal, j'en avais lu beaucoup. Et ce texte-là, il continue de me hanter, et je l'ai relu un peu, justement, certains passages pour notre rencontre, et ça m'a fait exactement le même effet, parce qu'elle aborde des grandes thématiques de la condition humaine, l'amour, la mort, la perte, comment on se reconstruit après un tel drame, c'est quoi le quotidien après un tel drame. Et c'est un livre extraordinaire que je conseille à tout le monde.
Je crois que la beauté de ce livre aussi, c'est, et le projet littéraire du livre, c'est vraiment d'arriver à remplir les vides autour de Tchernobyl qui ont été laissés par les chiffres et les faits. C'est-à-dire que de Tchernobyl, on sait que la centrale a explosé, on a des chiffres terribles sur les taux de contamination, tout a été extrêmement chiffré, c'est un événement un petit peu scientifique, Tchernobyl. Et Svetlana Alexievitch dit qu'elle voulait reconstituer les sentiments et non les événements. Et c'est ça, c'est une manière de rapprocher les destins et l'histoire qui est un peu, je trouve, aussi votre projet quand même, d'incarner des chiffres. J'ai l'impression que là, il y a une sororité entre vous.
En fait, il s'agit de... Encore une fois, c'est la condition humaine. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Elle interroge aussi cela. Alors, elle, effectivement, avec les moyens de la non-fiction, et moi, avec les moyens de la fiction. Et c'est intéressant, d'ailleurs, de voir les points de vue de chacun. C'est-à-dire que certains auteurs se sentent plus à l'aise avec la non-fiction. Moi, j'aime la fiction, parce qu'elle autorise une certaine liberté. Après, effectivement, sur des sujets comme cela, et je pense notamment aussi à un texte comme « La nuit » d'Elie Wiesel, on a besoin d'être au plus près d'un récit personnel, d'une forme de vérité, parce que c'est un tel drame humain que parfois la fiction est difficile. Et encore, là, je pense aux Bienveillantes de Jonathan Little, c'était une fiction, et en plus, il choisissait un point de vue particulier. Et pourtant, c'était très réussi. Donc, après, c'est des points de vue d'auteur, mais tous les livres qui racontent la société, qui racontent le réel, qui racontent la violence du monde m'intéressent, quels que soient d'ailleurs les univers. Là, je pourrais lire autant un livre de littérature d'Europe de l'Est, de littérature américaine, sur la guerre en Irak, par exemple, sur la guerre de 39-45. Et chaque fois, c'est une expérience humaine et littéraire éprouvante, mais passionnante.
Et vous, dans votre travail de recherche, on a vu en regardant votre bibliothèque, vous faites énormément de recherches pour vos livres, vous vous documentez, et votre dernier roman, Les choses humaines, a été inspiré d'un fait divers américain, l'affaire de Stanford, pour ceux qui la connaissent. À quel moment se fait le passage entre la documentation et la fiction pure ?
Pour écrire sur un sujet, j'ai besoin de le connaître. Donc au départ, j'ai besoin de lire sur ce sujet. Et après, si c'est possible, de m'immerger aussi dans un univers. J'aime beaucoup ce travail en immersion. Par exemple, pour les choses humaines, si j'avais voulu vraiment comprendre ce qui se jouait dans un procès d'assises, il fallait que j'assiste à des procès d'assises. Si je voulais comprendre ce qu'il y avait dans la tête des accusés, alors des victimes, j'avais lu des témoignages, mais des accusés, j'en avais pas lu. Donc il fallait aller se rendre au palais. Quand j'ai écrit le livre sur le centre de rétention administrative, il fallait que j'aille rencontrer des clandestins. Donc ce travail d'immersion est important. Et une fois que j'ai mes notes, en fait, je n'en parle pas forcément dans mes livres. C'est juste que ça donne une atmosphère. Parfois, ça tient à un détail. Et moi, je pense que c'est important quand on écrit d'avoir ce souci du détail. Et pour les choses humaines, dans la mesure où j'abordais aussi la question de la parole de la victime, je voulais être au plus près du réel. Je ne me sentais pas légitime à inventer une parole de victime ou une souffrance de victime. Donc tous les dialogues du livre sont issus de documents ou de procès qui ont bien eu lieu. Et puis, c'est d'une telle richesse, c'est-à-dire que moi, je vois bien le contraste entre lire un livre et rencontrer quelqu'un. Vous pouvez lire un nombre de livres incalculables sur le viol, mais quand vous allez rencontrer une personne violée ou quand vous allez rencontrer au palais un accusé, tout d'un coup, ça change toutes les perspectives. Donc c'est plutôt, pour moi, plus que de la documentation, c'est plutôt une quête humaine.
Non, ça me paraît une parfaite transition pour parler du troisième livre que vous avez choisi, qui est un livre de Maggie Nelson. Ça s'appelle « Une partie rouge ». C'est traduit de l'anglais par Julia Deck et c'est sorti aux éditions du Sous-sol en 2017. C'est un récit que Maggie Nelson a écrit en 2007. Depuis, elle est devenue une star de la non-fiction américaine, avec notamment Les Argonautes, qui est apparu l'année dernière, et à cette rentrée-ci, son livre Bleuet. Maggie Nelson, elle est professeure, penseuse, écrivaine, moi j'ai envie de dire philosophe, mais je pense qu'elle n'est pas très d'accord. Une partie rouge, le livre que vous avez choisi, est un livre un petit peu à part, d'ailleurs, dans son œuvre. C'est un livre dans lequel elle revient sur un crime qui a eu lieu avant sa naissance, en 1969, l'assassinat de sa tante Jane, qui est resté un mystère jusqu'à ce que le dossier soit rouvert grâce à de nouvelles analyses ADN 36 ans plus tard. Et Maggie et sa mère ont assisté à ce procès. Et Une partie rouge raconte l'assassinat de Jane et le procès, mais pas du tout d'une manière, dans une narration traditionnelle. C'est plutôt Maggie Nelson décide de méditer sur la vie de sa tante qui est morte à 23 ans, sur le deuil de sa mère auquel elle a assisté, sur son rapport aux hommes et à la force, parce que sa tante a été assassinée par un homme, sur son père qui est mort d'une crise cardiaque quand elle était encore adolescente. Et au fil du texte, elle s'autorise vraiment toutes les variations de ton. Elle passe de l'analyse théorique de situations vécues à un récit à fleur de peau de son propre passé. Elle navigue entre des réflexions quasiment en temps réel sur les difficultés d'écriture et tout ce que lui évoque le fait de voir, par exemple, les photos du corps de sa tante à la morgue. Elle prend à bras-le-corps ses problématiques, elle accepte d'être travaillée par des choses qui la dépassent et elle dit énormément au fil d'interviews et d'entretiens qu'elle donne qu'elle ne cherche jamais à résoudre un problème, mais à l'épuiser. Comment avez-vous découvert Maggie Nelson, Karine Tuile?
Je pense que j'ai dû la découvrir via son éditeur, son éditeur français des éditions du Sous-sol,
Adrien Bosque,
qui avait dû en parler. Et j'aime beaucoup ses choix dans sa maison d'édition, et donc je l'ai découvert à cette occasion il y a quelques années. Et j'ai adoré pour une raison très simple, c'est que ça ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais déjà lu auparavant. C'est très original, la forme est très originale, et c'est à la fois extrêmement intelligent, fluide, et c'est très singulier, en fait. C'est presque difficile d'en parler, parce que je dirais il faut la lire. Et après, j'avais lu Les Argonautes, qui est aussi une réflexion, qui est plutôt une réflexion sur le genre, mais qui nourrit aussi de ses lectures. Et en fait, on voit bien que c'est un auteur qui est totalement libre. Et ça, c'est très rare... de lire des auteurs, il n'y a pas de contrainte chez Maggie Nelson. Comme vous l'avez dit, elle peut passer d'un sujet à un autre. Il y a beaucoup de références. Et par exemple, un livre qui est très référencé, ça pourrait être agaçant. Et chez elle, ça ne l'est jamais parce que c'est toujours, ça sert toujours son propos. Finalement, la phrase « on est le produit de ses lectures » est très significative dans son œuvre parce qu'on voit bien qu'elle est traversée par toutes ces considérations littéraires et sociales. Et puis, elle a un style inimitable et elle écrit d'une façon dont je ne me sentirais pas du tout capable. Parce qu'effectivement, elle s'implique, elle utilise le jeu, elle parle de choses très, très personnelles, parfois intimes, de sa sexualité. Elle commence par ça dans Les Argonautes. Et je me dis à chaque fois, en la lisant, elle a une audace et une liberté. Elle est transgressive et je suis assez fascinée, en fait, par elle. Il y a beaucoup d'auteurs de sa génération, notamment des Américains, que j'aime beaucoup. J'ai cité Safran Foer, je pourrais citer Nicole Cross, ou chez les anglo-saxons, Zadie Smith. Mais il y a chez elle quelque chose... voilà, il y a vraiment une liberté, une audace transgressive que je ne trouve pas ailleurs. Et je ne crois pas en plus, et c'est ça qui est fascinant, quelle est la volonté de choquer ou de susciter cela. Elle est cela. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de la rencontrer dans la vie. Et elle est très simple, assez douce. Et il y a un vrai contraste entre ce qu'elle écrit et ce qu'elle paraît être. Et c'est ce qui la rend aussi intéressante parce qu'on sent toute sa force intellectuelle et morale.
Il y a quelque chose chez Maggie Nelson aussi, je trouve, qui est très émouvant quand on la lit, c'est que vous le disiez, elle cite énormément de philosophes, de textes qui sont chers à son cœur, beaucoup, beaucoup Wittgenstein, beaucoup Roland Barthes, les structuralistes français. Et ça me fait penser à votre bibliothèque, parce qu'en fait, elle exprime à voix haute dans ses livres ce passage, en fait, cette transmission et la manière dont les œuvres des autres traversent ses livres à elle. Est-ce que vous avez déjà pensé faire des bibliographies, vous, à la fin de vos livres ?
Je l'ai fait pour l'insouciance, parce que j'avais lu certains textes qui avaient été importants, des paroles de soldats notamment, des livres sur la guerre. Et ça m'a été reproché par certains critiques qui m'ont dit « Ah, elle cite sa documentation à l'américaine ». Et j'ai trouvé que c'était assez injuste, et donc j'ai compris que, voilà, je pense qu'en France, on peut moins s'autoriser ce genre de... Oui, donc c'est un procès qu'on m'a fait plusieurs fois, enfin, un reproche qu'on m'a fait plusieurs fois, et donc... Je ne le fais plus, mais je le regrette, parce que je pense effectivement qu'un livre, c'est pas seulement le fruit de nos préoccupations, mais c'est aussi le fruit de nos lectures. Et c'est sans doute ce que j'aime chez Maggie Nelson, c'est que ses références, elle les affirme, elle les affiche. Et encore une fois, c'est référencé, c'est très référencé, mais pourtant, ça reste très fluide.
C'est vrai que c'est une... On a une crispation en France sur la forme, quoi, vraiment, sur l'idée que... Quand c'est écrit roman, c'est un roman, et donc il serait complètement déplacé de citer des ouvrages de référence.
C'est extrêmement juste. Moi, je regrette qu'on cherche en France à autant définir les choses, parce que pour moi, la littérature, finalement, ne devrait pas on ne devrait pas pouvoir la définir. C'est quoi la littérature ? Et on doit pouvoir garder cet espace de liberté totale, et c'est ce que fait d'ailleurs Maggie Nelson. Et c'est en cela qu'elle échappe à toutes les règles, c'est qu'elle s'autorise toutes les digressions possibles. Svetlana Alexievitch aussi, c'est une forme totalement hybride. Et moi, j'adore cette liberté-là, mais en France, on veut à tout prix nous enfermer, catégorie roman, catégorie non-fiction. Je pense qu'un livre peut... c'est l'espace de la liberté. Donc, à partir de là, on doit pouvoir offrir n'importe quelle forme, y compris intégrer un poème. Et c'est une liberté que souvent, on cherche à nous retirer.
D'accord, Karine Thuil, merci beaucoup. J'ai une dernière question pour vous. Est-ce que si je vous demandais de choisir de conseiller un de ces trois livres de manière impérieuse et urgente, par lequel pour vous faudrait-il commencer ?
Alors, je conseille vraiment La Supplication d'Alexievitch.
D'accord. Merci beaucoup, Karine Thuil.
Merci.
Venez d'écouter Karine Thuil, et les trois livres recommandés sont La Supplication de Svetlana Alexievitch aux éditions Lattès, Une partie rouge de Maggie Nelson aux éditions Du Sous-sol et L'écriture comme un couteau d'Annie Ernaux chez Stock. L'entretien a été mené par Clémentine Golzal et il a été monté par Amel Almia. Maud Benakcha était à la coordination, Pauline Thompson a composé la musique et Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le commenter sur les différentes plateformes et à le recommander autour de vous, à vos amis, à vos libraires. C'est la meilleure manière de nous soutenir. N'hésitez pas aussi à vous inscrire au club de lecture dans lequel nous discutons des livres évoqués dans le podcast. Rendez-vous sur louismedia.com ou sur le compte @bookclublouis sur Instagram. À très vite.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.
Je présente mon billet, elle prend mon téléphone, elle agrandit, je vois qu'elle zoome, elle me dit « mais c'est un faux billet, madame ».
Et ce jour-là, je suis avec mon frère et je me dis « mais il se fout de moi ou quoi ?»
Je lui demande à quelle heure il rentre et là, il me ment sur l'horaire de retour et il me donne un horaire 3 heures plus tard.
Sur les coups de midi, je sais pas pourquoi, je vérifie mon application bancaire et je me rends compte que j'ai été débitée de 400 euros sur mon compte bancaire.
Je vois le policier regarder son écran, on voit qu'il y a un pavé, quoi. Et là, il me regarde et il me dit « Monsieur, je peux pas vous dire ce qu'il y a sur mon écran. Par contre, regardez-moi bien, droit les yeux, fuyez. »
Je fais une marche arrière.
Et à ce moment-là, une jeune fille arrive en courant.
On lui hurle par la fenêtre que nous sommes toutes ses meufs.
Donc je lui dis « À toi, ramène ton cul ici tout de suite parce que ça va partir en cacahuète. »
Lover, voleur, une série de 4 épisodes tournée par Lizanne Larbani après son enquête dans Libération à propos de Lesti, le caméléon de Tinder. Et à écouter à partir du 22 avril dans Passage, notre podcast d'histoire vraie. À très vite.